VOA Afrique. Le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, il est 18h30 en temps universel. Le Monde aujourd'hui, édition du lundi 3 juillet 2017. Tatiana Mosso et Chérubin Gabidor-Sil en direct de Washington.
Au sommaire ce soir,
le 29e sommet de l'Union africaine s'est ouvert à Addis Abeba. Robert Mugabe a fait un don $1 million en vendant du bétail.
Au moins 9 personnes tuées, des dizaines enlevées dans la région de Diffa, dans le sud-est du Niger. L'attaque est attribuée au groupe Boko Haram.
Mise en garde de l'Union européenne au Kenya contre des violences possibles lors du scrutin du 8 août prochain.
Damas a proclamé un cessez-le-feu unilatéral dans le sud de la Syrie à la veille du démarrage des négociations avec les rebelles à Astana, la capitale du Kazakhstan.
Et retrouvez Yacouba Ouedraogo à la fin de ce journal pour les sports et Dilidico pour la Minute Éco. Mais d'abord, le journal.
Le Niger, de nouveau le théâtre d'une attaque. 9 civils ont été tués la nuit passée et des dizaines d'autres enlevés dans le sud-est du pays, près du Nigeria. Le groupe Boko Haram est désigné du doigt. Le point avec Yacouba Ouedraogo.
L'attaque a visé la localité d'Engalewa, non loin de Kabalewa, au nord de Diffa, indique Abari El Hadj Daouda, le maire de Kabalewa. En plus de 9 morts, les autorités déplorent l'enlèvement d'une trentaine de femmes et d'enfants. Mercredi, un attentat suicide perpétré par 2 femmes kamikazes contre un camp de réfugiés avait fait 2 morts et 11 blessés dans la même zone. Au lendemain de cette attaque, les autorités avaient annoncé que des milliers de réfugiés et déplacés vivant dans le camp de Kabalewa allaient être transférés loin de la frontière du Nigeria. Le groupe islamiste nigérien Boko Haram est resté très actif dans la région de Diffa depuis 2015. À la mi-avril, l'armée nigérienne a annoncé avoir tué 50 djihadistes près de Guesskerou. Depuis décembre dernier, 150 combattants nigériens de Boko Haram ont déposé les armes et se sont rendus aux autorités à Diffa.
Les chefs d'État et de gouvernement africains se retrouvent à Addis Abeba pour le 29e sommet ordinaire de l'Union africaine. Le thème met l'accent sur l'implication des jeunes dans le développement du continent, mais les questions pressantes de l'heure sont dans tous les esprits. Gabidor-Sil.
Ce sommet est l'occasion, encore une fois, de se pencher sur les conflits et crises frappant le continent africain. La question sécuritaire est omniprésente avec les récentes attaques au Mali, les violences en Centrafrique, pour ne citer que ces exemples. Mais d'entrée de jeu, le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, a tiré la sonnette d'alarme sur la famine qui touche déjà 3 pays africains, la Somalie, le Soudan du Sud et le Nigeria. Il n'a pas caché sa frustration en dénonçant un manque de solidarité envers les victimes de la crise alimentaire dans le bassin du lac Tchad et dans le Sahel. Le président zimbabwéen a voulu donner le ton. Robert Mugabe a fait un don d'un chèque $2 million à l'Union africaine, tiré de la vente aux enchères de 300 têtes de bétail. Tant que nous ne pourrons pas financer nous-mêmes nos propres programmes, l'Union africaine ne sera pas réellement nôtre, a ajouté M. Mugabe, dont le pays, il faut le dire, traverse lui aussi une situation économique difficile depuis plusieurs années.
Djibouti a demandé à l'Union africaine de soutenir ses efforts pour négocier un règlement de différends territoriaux qui l'oppose à l'Érythrée, passant par une démarcation de la frontière. Son ministre des Affaires étrangères avait annoncé, lui, le 14 juin, avoir retiré ses soldats déployés dans la région de Nouméa, disputée entre les deux pays sur la mer Rouge. Ses forces étaient chargées de garantir l'application d'un accord de paix entre les deux voisins de la Corne de l'Afrique.
Au Kenya, l'Union européenne a mis en garde ce lundi contre de possibles violences lors des élections générales du 8 août prochain. Élections qui opposeront notamment le président sortant Uhuru Kenyatta au leader de l'opposition Raila Odinga. Blanche Sanou.
Les Kenyans sont appelés aux urnes, notamment pour choisir le président, le député ou gouverneur, 10 ans après les pires violences électorales de l'histoire du pays. Le bilan avait fait 1100 morts. Au cours d'une conférence de presse, la députée Marietti Sheikh, qui dirige la mission d'observation de l'Union européenne, a déclaré « Ce n'est pas un secret, il y a des gens qui redoutent de possibles violences ». Par ailleurs, elle a annoncé qu'un premier groupe d'une trentaine d'observateurs de l'Union européenne a été envoyé à différents endroits du Kenya. L'ONG Human Rights Watch a fait état de menaces et d'intimidations entre communautés dans la région centrale de Naivasha et dans la vallée du Rift, une des zones affectées par les violences électorales de 2007-2008.
Les États-Unis ont mené dimanche en Somalie une frappe contre les islamistes Shebab affiliés à Al-Qaïda, a-t-on appris aujourd'hui auprès du commandement des forces américaines en Afrique. Le commandement américain s'est refusé à donner toute précision, notamment sur le lieu de la frappe ou la manière dont elle a été conduite. Les frappes américaines sont menées habituellement par des drones, avions ou hélicoptères.
Le président soudanais Omar el-Béchir se rendra en août à Moscou pour la première fois à l'invitation de son homologue russe. L'annonce a été faite par le ministre des Affaires étrangères à Khartoum. Le point avec Arzouma Compaoré.
C'est la première fois qu'un voyage à l'étranger de M. Béchir est annoncé plusieurs semaines à l'avance. Dans un communiqué, Ibrahim Gandour, ministre soudanais des Affaires étrangères, a déclaré que le président Omar el-Béchir se rendra en Russie durant la seconde quinzaine d'août à l'invitation du président Vladimir Poutine. Omar el-Béchir fait l'objet d'un mandat d'arrêt de la CPI depuis 2009. Ses déplacements sont réduits, mais il a continué à se rendre à l'étranger sans être inquiété. Ce voyage à Moscou intervient avant une décision attendue le 12 juillet du président Donald Trump sur une levée de certaines sanctions américaines imposées au Soudan depuis 20 ans. L'ex-président Barack Obama avait décidé en janvier la levée de certaines sanctions, mais il avait prévu une période probatoire de 6 mois.
Deux policiers ont été blessés et 47 personnes interpellées dans des heurts aujourd'hui dans le centre de Tunis entre des marchands ambulants et les forces de l'ordre, a indiqué le ministère de l'Intérieur. Ces incidents sont survenus lors d'un rassemblement d'environ 300 personnes venues manifester devant le siège de l'Union Générale Tunisienne du Travail, UGTT, contre la campagne d'interdiction des états anarchiques menée par les autorités locales.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Lutte contre le groupe État islamique. Les forces irakiennes font face à des difficultés grandissantes alors qu'elles progressent à Mossoul où les djihadistes multiplient les attentats suicides. Un haut responsable militaire estime que la fin de la bataille finale pourrait intervenir d'ici une semaine. Le groupe État islamique ne contrôle plus qu'une petite fraction de la partie ouest de la vieille ville. Selon l'armée irakienne, il reste au moins 200 combattants à Mossoul, dont une majorité d'étrangers.
L'armée syrienne a annoncé une trêve unilatérale de quelques jours dans le sud du pays. Elle coïncide avec la tenue de nouvelles négociations avec les rebelles à Astana, la capitale kazakh. Le point avec Idriss Fall.
L'armée syrienne a proclamé une cessation des hostilités du 2 au 6 juillet à minuit dans les provinces de Deraa, Kouneitra et Souaïda dans le sud du pays. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, les combats pour l'essentiel ont cessé dans ces trois provinces, mais que cette trêve ne concerne pas le groupe État islamique. Les négociations d'Astana doivent avoir lieu mardi et mercredi. Ce processus a été lancé par la Russie et l'Iran, alliés au régime de Bachar al-Assad, ainsi que par la Turquie, soutien des rebelles. Faisal Mokhdad, vice-ministre syrien des Affaires étrangères, a indiqué que la délégation du régime était en route pour Astana. Un représentant des rebelles, Ahmad Berri, a confirmé sa participation. La guerre civile en Syrie, déclenchée en mars 2011, aura fait 320 000 morts et des millions de réfugiés.
Donald Trump et Angela Merkel comptent se rencontrer en tête-à-tête juste avant le sommet du G20 cette semaine, a indiqué lundi le porte-parole de la chancelière allemande. Alors que les sujets de friction se sont multipliés entre les deux dirigeants, le sommet lui-même se tient vendredi et samedi à Hambourg.
Et parlant du G20, les anti-sommets ont menacé de camper sur les places et dans les parcs de Hambourg, où se tient, comme nous l'avons dit, vendredi et samedi, le sommet du G20, si la police ne les autorise pas à passer la nuit dans un parc qu'ils ont choisi pour camp de base dimanche. Des échauffourées ont éclaté entre policiers et manifestants et la police, qui a fait usage de gaz lacrymogène, a interpellé une personne.
Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a estimé ce lundi que la sortie des États-Unis de l'accord de Paris sur le climat avait donné lieu à un sursaut à l'échelle mondiale, amenant les autres pays signataires à réaffirmer leur engagement. Monsieur Guterres faisait allusion lors d'une conférence à Lisbonne non seulement à la réaction des pays européens, de la Chine et de l'Inde, mais aussi à certains États américains. L'accord de Paris conclu fin 2015 vise à contenir la hausse de la température moyenne mondiale bien en deçà de 2 degrés par rapport à l'ère pré-industrielle.
Le président français Emmanuel Macron a annoncé ce lundi devant le Parlement réuni en congrès à Versailles qu'il lèverait à l'automne l'état d'urgence en vigueur depuis les attentats de novembre 2015 tout en annonçant des mesures renforcées dans la lutte antiterroriste.
Au moins 8 personnes ont été tuées et 50 autres blessées lundi lors de l'explosion d'une chaudière dans une usine textile au Bangladesh. Plusieurs dizaines d'employés étaient présents dans cette usine de 6 étages située dans une zone industrielle en périphérie de Dhaka lorsque l'explosion s'est produite. Voici pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. L'actualité économique en Afrique avec Dili Dico.
Après le Cameroun et le Gabon, le FMI vient en aide au Tchad avec un accord de prêt triennal. En l'espace d'une semaine, le Tchad est donc devenu le troisième pays producteur de pétrole dans l'espace CEMAC à bénéficier du programme d'aide du FMI. Le Cameroun a bénéficié d'un prêt de 666 millions de dollars et le Gabon de 642 millions de dollars. Affectée par la chute des prix du pétrole, dont elle est très dépendante, l'économie tchadienne va bénéficier d'un prêt de 312 millions de dollars du FMI sur les 3 prochaines années. L'objectif de cette opération est de stimuler les recettes publiques tchadiennes en soutenant le programme national de diversification de l'économie. En Tanzanie, la Banque mondiale va injecter 345 millions de dollars dans le projet d'extension du port de Dar es Salaam. Il s'agit du deuxième prêt accordé à la Tanzanie cette année pour l'agrandissement de son port principal. Le pays avait déjà reçu en janvier 305 millions de dollars de la banque. Ces financements pourraient résoudre les problèmes d'encombrement que rencontre le port. Le fret transitant par le port de Dar es Salaam augmente de 9% chaque année et les problèmes de gestion des cargaisons constitue la principale difficulté pour les autorités tanzaniennes. Le soutien de la Banque mondiale devrait améliorer la productivité globale et réduire le temps d'attente qui pourrait passer de 80 heures à 30 heures.
Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique place maintenant à l'actualité sportive avec Yacouba Ouédraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Gabi, bonsoir à tous.
On commence par la Ligue africaine des champions. Les premiers quarts de finalistes sont connus.
Oui, Mamelodi Sundowns, Espérance de Tunis ou encore Étoile du Sahel seront bien au rendez-vous. Tenant du titre, les Sud-Africains de Mamelodi Sundowns ont fait la bonne opération en s'imposant en Éthiopie devant Saint-Georges, 1-0. Dans le même groupe C, l'Espérance de Tunis consolide son ticket pour le prochain tour grâce à son match nul à Kinshasa face à l'AS Vita Club 2-2. Al Ahly n'a pas encore composté son billet mais aura l'occasion de le faire lors de la prochaine journée. Dans le groupe B, l'USM Alger et Al Ahly de Tripoli sont bien partis pour aller en quart, mais attention aux Zimbabwéens de Caps United. Le Zamalek, lui, n'a plus son destin en main.
En Coupe de la CAF, certains clubs peuvent déjà se frotter les mains, Yacouba, avant la dernière journée des phases de poule.
Effectivement, c'est le cas de Hilal Obed, CX Faxien et le Mouloudia. Pour sa première participation à une Coupe continentale, le club soudanais d'Hilal Obed impressionne. Avec 10 points, il est certain de voir le prochain tour. Dans le même groupe C, Zesco United de la Zambie est également en bonne voie. Même situation pour le MC Alger qui, avec ses 11 unités, sera bien de la partie des quarts. Le CS Sfaxien est également bien parti pour l'accompagner dans le groupe B. Rien ne va par contre pour le CF Mounana du Gabon, 5 matchs, 5 défaites. Dans le groupe D, Supersport Mazembe et Oroya peuvent encore se qualifier.
Finale de la Coupe des Confédérations hier.
Oui, les Allemands sont en fête. Avec une équipe B, Joachim Löw a pu déjouer les pronostics et vaincre une sélection chilienne tenante du titre et l'une des meilleures en Amérique du Sud. Score 1-0, but inscrit à la 20e sur une erreur de la défense chilienne.
Et le Sénégal et la Tunisie vont co-organiser l'Afrobasket 2017.
Oui, les 16 équipes qualifiées pour l'Afrobasket 2017 seront réparties en 4 groupes. 2 de ces groupes joueront leur match de poule à Dakar et les 2 autres à Tunis. La phase finale qui se déroulera du 14 au 16 septembre aura quant à elle lieu dans la capitale tunisienne. À l'origine, c'est le Congo-Brazzaville qui devait accueillir l'Afrobasket 2017 avant de devoir se désister suite à des problèmes financiers. L'Angola s'était proposé avant de renoncer, lui aussi, car la compétition aurait lieu en même temps que les élections générales angolaises.
Voilà pour les sports. Merci Yacouba Ouédraogo, que l'on retrouve tout à l'heure à 19h dans Sporama.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De retour avec vous, Tatiana Mosso et Chérubin Gabi Dorsil. Deuxième partie d'émission, les dossiers du jour avec Idrissa Seloudia.
Le projet d'une force commune antiterroriste de 5000 hommes du G5 Sahel devrait être opérationnel à la mi-août au plus tôt. Outre les 50 millions d'euros de l'Union européenne, la France va investir 200 millions d'euros d'ici la fin de l'année. L'annonce en a été faite par le président français Emmanuel Macron, qui a participé au sommet extraordinaire du G5 Sahel tenu hier à Bamako. Au cours de cette rencontre, le président Ibrahim Boubacar Keïta a par ailleurs souligné qu'il ne retirera pas son projet de révision constitutionnelle. Le point avec Kassim Traoré.
Le président français Emmanuel Macron, principal hôte du sommet, n'était pas venu à Bamako pour annoncer un désengagement français. Au contraire, il a fait des propositions pour soutenir la force conjointe du G5 Sahel. Emmanuel Macron, président de la République française.
Pour ma part, j'ai donc confirmé le soutien de la France à cette initiative, qui passera d'abord par un soutien opérationnel aux unités, avec un soutien accru de l'opération Barkhane en conseil, assistance et accompagnement au combat. Une aide matérielle importante, avec 70 véhicules tactiques, du matériel de communication et d'interopérabilité des forces, du matériel de protection pour les hommes.
Les dirigeants des pays du G5 Sahel, le Mali, le Tchad, le Niger, la Mauritanie et le Burkina Faso doivent contribuer pour faciliter la mobilisation de 423 millions d'euros. Ibrahim Boubacar Keïta, chef de l'État du Mali, présent en exercice du G5 Sahel.
Financement tel que nous l'avons évalué, 423 millions d'euros. Chacun de nos États va faire l'effort de 10 millions d'euros. Convertissons, je crois que ça fait 6 milliards. C'est quand même assez appréciable. Cela parce que nous souhaitons aller assez vite. Il y a urgence là. Il y a urgence parce que ceux que nous avons en face de nous n'avaient pas. Ils l'ont prouvé encore, et c'est pas vous qui allez l'apprendre, ils l'ont encore prouvé. Donc il nous faut aller vite. Il nous faut aller vite, mais vite et bien.
La France s'engage aux côtés des pays du G5 Sahel pour combattre le terrorisme. Le président français n'a pas oublié les questions de développement.
Notre engagement pour développer justement les initiatives d'accompagnement de la composante militaire de notre intervention. Une initiative spécifique sur les pays du G5 Sahel mobilisera 200 millions d'euros spécifiquement pour donc les pays du G5. Les projets à impact rapide aussi bien que les actions de moyen et plus long terme qui sont structurantes et qui sont centrées sur les priorités éducation, agriculture, énergie renouvelable principalement. Et l'AFD est pleinement mobilisée dans justement ces initiatives.
Lors de ce sommet extraordinaire du G5 Sahel, le président Ibeka est revenu sur les progrès réalisés dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord d'Alger 2015.
L'accord pour la paix et la conciliation, signé en Alger. Nous l'avons fait en toute liberté, mais on va essayer par des malices, par des biais divers, de mettre en cause cet accord-là. L'une de ces malices consiste à faire soulever, à faire un tollé contre le référendum, le projet de loi référendaire, au motif qu'il serait un projet d'augmentation exponentielle des pouvoirs du président Keïta. Il n'en est rien du tout. Il n'a aucune espèce d'intérêt personnel à cette affaire, aucune.
Ibeka a affirmé avec insistance le maintien de son projet de révision constitutionnelle, qui est lié, selon lui, au respect de l'accord d'Alger 2015.
Nos amis sont sortis du bois pour dire non, nous ne sommes pas d'accord. Alors qu'ils ont été d'accord avec nous, mais in fine, non, non seulement nous ne sommes pas plus d'accord, mais même mieux, le président Keïta serait mieux inspiré de retirer ce document-là du circuit. Si je le fais, je trahirai mon pays. Je ne le ferai pas. Cela dit, la Cour constitutionnelle, qui est dont l'autorité est sans conteste, va opiner. Elle dira le droit. Je sais, on joue sur un aspect. L'article 118 de la Constitution dit pas de révision constitutionnelle quand une partie du pays ou la partie du pays est occupée par un étranger. Quelle est la puissance étrangère qui occupe le Mali? Il n'y en a pas.
Sur la question de la révision constitutionnelle au Mali, Emmanuel Macron trouve que c'est une question de souveraineté malienne. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Restez avec nous à Bamako, au Mali, sur le 102 FM, c'est VOA Afrique, 24h sur 24.
Au Niger, l'évaluation des 60 enseignants contractuels annoncés par le gouvernement se tiendra à la mi-juillet. Mais tous les syndicats d'enseignants appellent à un boycottage d'une telle évaluation, la jugeant contraire au texte en vigueur. Reportage de notre correspondant Abdourazak Idrissa.
C'est un communiqué du ministère des enseignements primaires qui informe de la tenue les 15 et 16 juillet prochains de cette évaluation voulue depuis février par les autorités à la suite de constats sur une baisse, sinon un manque total de niveau chez les enseignants contractuels en particulier. Daouda Mamadou Marté, ministre des enseignements primaires.
Je vais vous donner, pour que vous compreniez, quelques-unes des questions qui leur ont été posées. Abdou a 26 poules. Le chat de son voisin en a dévoré la moitié la nuit dernière. Combien de poules lui reste-t-il? Il y a eu des mes enseignants qui ont eu zéro. Fanna la potière a fabriqué 30 canaries. Très tôt le matin, son petit-fils en a cassé 12. Combien de canaries possèdent-elles maintenant? Mes enseignants, certains de surcroît directeurs d'école ont eu zéro. Vous voyez bien que... À partir de cet instant, nous sommes interpellés.
Sans s'opposer au principe de cette évaluation, les syndicats d'enseignants appellent leurs militants à la boycotter parce que dans la forme, elle est contraire aux dispositions du statut général de la fonction publique qui régit aussi les contractuels. Moukela Alidou, secrétaire général du syndicat des agents contractuels et fonctionnaires de l'éducation de base.
Le statut de la fonction publique dit qu'on ne peut pas faire une évaluation qu'en situation de classe. Et voilà que le ministère aujourd'hui veut vouloir prendre les enseignants, les mettre dans une classe avec deux épreuves, une en français et une en mathématiques, pour dire qu'ils sont en train de chercher la qualité. On dit que les enseignants n'ont pas de niveau, je l'ai suivi, où il dit qu'il y a des enseignants qui ne savent même pas un kilomètre égal à combien de mètres. Mais cet enseignant a été recruté comment? C'est eux qui les ont recrutés, ce ne sont pas les syndicats.
L'idée première de cette évaluation était qu'elle devait concerner tous les enseignants, et malgré le fait que ceux qui sont immatriculés à la fonction publique et qui constituent le plus grand nombre des militants de son syndicat ne soient plus évalués, et souffrent Arzika, le secrétaire général du syndicat national des enseignants du Niger, s'insurge contre la forme de cette évaluation.
Avec son évaluation, entre guillemets, le ministre Marté va planter le système éducatif s'il continue comme ça. Et c'est déjà un système éducatif nonchalant. Ça aura beaucoup de conséquences sociales, économiques. Et on ne sait pas ce que deviendront les enseignants qui vont être remerciés. Il avait Marté là avant de dire qu'ils ne remercieront personne. Non, mais pendant les négociations, le président du comité a été clair. Il dit, si Marté ne peut pas vous dire, moi je vous l'ai dit. Nous allons remercier ceux qui ne sont pas capables de continuer à apprendre aux élèves. Il l'a dit. Maintenant, hier, il nous répète qu'il ne va pas le faire. On va voir.
Contractuels sont recrutés par l'État pour pallier au manque de personnel enseignant. Beaucoup d'entre eux accèdent à la fonction sans formation de base. Ils représentent aujourd'hui plus du tiers du corps enseignant du pays et cette évaluation est perçue chez les syndicats et beaucoup d'autres citoyens comme une façon pour le gouvernement de réduire leur nombre. Abdelrazak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
L'Organisation internationale pour les migrations a classé les ressortissants ivoiriens en tête de liste des candidats à l'immigration clandestine en Europe. Pour faire face à cette crise, les autorités ivoiriennes ont lancé une vaste campagne de sensibilisation. D'Abidjan, notre correspondante Narita Namasté fait le point.
La Côte d'Ivoire est devenue l'un des principaux pourvoyeurs de migrants. Un phénomène paralysant pour le gouvernement ivoirien qui prend les dispositions pour sensibiliser sa jeunesse à ne pas se livrer à cette aventure clandestine qui a déjà enregistré la mort de plus de 6000 Africains dans la Méditerranée. Des projections de films et de sensibilisation sont diffusées dans des quartiers. Des bureaux d'écoute et conseils ont également été ouverts pour des potentiels candidats qui veulent aller en Europe.
L'un des axes de la stratégie que nous avons mise en place, c'est d'intensifier notre campagne de sensibilisation que nous avons commencée il y a déjà 2 ans et nous n'avons pas attendu qu'il y ait cet afflux de migrants sur les côtes italiennes. La responsabilité d'un gouvernement comme le nôtre, puisqu'il est dit que nous avons un contingent assez élevé d'Ivoiriens parmi ces migrants qui débarquent en Europe. Et donc, il était de notre devoir d'accentuer cette campagne de sensibilisation.
Des projections de films et de sensibilisation sont diffusées dans des quartiers. Des bureaux d'écoute et conseils ont également été ouverts pour des potentiels candidats qui veulent aller en Europe. Selon l'Organisation internationale pour les migrations, ce sont plus de 12 000 Ivoiriens qui se retrouvaient en Libye en 2016, dans l'attente et l'espoir de traverser la Méditerranée. Pour Madame Vijaya Souri, représentante de l'OIM, il faut accentuer la sensibilisation et encadrer ces jeunes à utiliser la voie légale.
Pour tout ce qui est migration, c'est un désir naturel. Et quand c'est fait dans des conditions régulières, pour nous, c'est idéal. Mais à l'heure d'aujourd'hui, on sait que les conditions ne sont pas du tout favorables. Les migrants souffrent énormément. Il y a beaucoup d'abus et d'exploitation. Et qu'arriver à destination, dans beaucoup de cas, l'idée de ce qui se faisait de leur destination et de leur meilleure vie, elle n'est pas tout à fait à l'appel.
Alassane Diak était 17 ans, revenu depuis 6 mois de la Libye, a dépensé près de 1 500 $ pour tenter la traversée en passant par le Burkina Faso, le Niger, avant d'atteindre la Libye. Selon Alassane Diak, cette expérience est honteuse et horrible. Un cauchemar qu'il n'est pas prêt à oublier. Il appelle donc l'État de Côte d'Ivoire à faciliter l'emploi pour les jeunes pour que certains de ses frères africains ne s'adonnent pas à cette aventure qu'il qualifie de suicidaire.
Bon, là-bas, c'est pas bon. Il y a la guerre. Chaque jour, c'est armes qui tirent partout. Il n'y a pas un Libyen que tu vas le voir qui n'a pas arme. Tout le monde est armé là-bas. Je suis quitté ici, je suis passé par Burkina, Niger, rentré en Libye. Ça m'a coûté au moins 800 000, sinon c'est plus que. C'est que moi j'ai pu dire à nos cadres d'essayer de nous aider, on va essayer de travailler au pays et participer à l'économie de nos pays aussi. Je peux rester ici pour travailler.
La Côte d'Ivoire a enregistré plus de 800 migrants illégaux arrivés en Italie de janvier à février 2017. Selon les autorités italiennes, on estime aujourd'hui à plus de 12 000 le nombre d'Ivoiriens qui ont traversé la Méditerranée depuis la fin de l'année dernière. Narita Namaste à Abidjan, VOA Afrique.
Restez branchés sur VOA Afrique à Abidjan sur 99.0 FM en Côte d'Ivoire.
Guinée, pour terminer, à Kindia, ville à forte activité agricole située à 132 km de Conakry, la majorité des femmes est déscolarisée ou non scolarisée. Pour oublier l'échec scolaire, ces femmes apprennent des métiers pour s'autonomiser, nous dit dans ce reportage notre correspondant Zakaria Camara.
Dans ce quartier de Kindia, l'une des nombreuses coopératives dans la ville mène diverses activités. Ici, plus de la moitié des 280 femmes de l'association exercent l'activité de teinture. Certaines, comme cette mère de famille, sont venues apprendre. À défaut de l'école, je suis venu apprendre un métier. Dieu merci, j'arrive à nourrir mes 4 enfants. La spécialité de cette activité, c'est le kindili, une déformation de candle en anglais, bougie en français. La technique consiste à faire fondre les bougies dans de l'eau bouillante. Il faut d'abord faire fondre la bougie et après on ajoute de l'eau avant de refroidir le mélange. Ensuite, commence la pose du bois sur le pagne. Pour marquer les dessins sur les pagnes, les femmes ont fait appel à l'imagination des menuisiers. Kindili, l'une des réputations de Kindia, une technique qui se transmet d'une génération à l'autre. Témoignage de deux sexagénaires. Mes parents faisaient le kindili, je le fais à mon tour depuis mon jeune âge. Avant, on broyait les noix de cola. Le mélange était utilisé sur les pagnes blancs. Mais ces bonnes techniques n'existent plus. Comme la majorité des membres du groupe de Kondita Mosquée, la présidente n'a pas continué les études. Mais avec la teinture, elle semble satisfaite. Apprendre des métiers, c'est comme aller à l'école. Nous maîtrisons cette technique, nous pouvons mieux faire. Alors aidez-nous, s'il vous plaît, aidez-nous. À quelques mètres du centre, des jeunes élèves tapent sur des kindili séchés à l'aide de bois de plus de 5 kilos.
À l'air là, il n'y a pas d'école. L'école est fermée. Nous sommes venus pour taper le pain là. Après, s'il y a un peu d'argent qui sort, nous allons acheter des habits, des tenues, des cahiers. Après ouverture, nous allons partir à l'école.
La teinture est une activité qui connaît un succès retentissant ici, même les gens.
C'est la fin de cette édition. À la mise en onde, Lionel Gaïma, présentation Tatiana Mosso et chérubin Gabi Dorsil. Ainsi va le monde aujourd'hui. On reste en contact sur Facebook et bien sûr, rendez-vous sur notre site voafrique.com pour l'actualité 24 heures sur 24.